raconte. Christophe Ondelatte.
Un soir de juillet 2019, à Ariens en Moselle, Alexandre Pasternak viole et tue Sigrid Weber, sa voisine de 63 ans, sur laquelle il fantasmait depuis son adolescence. Il cachait une énorme frustration sexuelle. À 35 ans, il était toujours puceau. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction d'Alexandre Pasternak.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En 2019, au moment où il viole et tue sa voisine Sigrid Weber, à Ariens en Moselle, Alexandre Pasternak a 35 ans et il vit toujours chez sa mère. C'est le simplet du village, le brave jardinier municipal sur qui on peut toujours compter, celui qui ne ferait pas de mal à une mouche. Au lendemain du crime, le voilà en garde à vue face aux gendarmes de la section de recherche de Metz.
Alexandre Pasternak, c'est un personnage, quand on le voit, qui semble bonhomme, jovial, très gentil, un monsieur très simple. Et finalement, quand on creuse et qu'on voit les pulsions qui l'animent, les fantasmes qu'il a, c'est quelqu'un qui fait vraiment froid dans le dos, en fait.
Stéphanie Lemahou, commandante de gendarmerie.
Je suis analyste comportementale au département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale depuis plus de 20 ans maintenant. Ce département a deux grands types de missions qui sont l'analyse de scènes de crimes particulièrement violentes et également l'aide à la préparation et à l'assistance à garde à vue pour des gardes à vue où les suspects sont difficiles. Nous étions deux du même département et en fait on a un déport du son et de l'image sans enregistrement et on peut voir et entendre ce qui se passe. Monsieur Pasternak est un individu pas très grand, un peu bonhomme, d'allure joviale. Il n'a pas un faciès ni un physique menaçant. Par contre, effectivement, on voit qu'intellectuellement, il est un petit peu limité. Il y a quelques années, on aurait peut-être dit le benêt du village, mais il parle correctement, il n'y a pas de souci. Notre travail va être d'analyser effectivement son comportement. Par rapport au CV, à son parcours de vie, d'analyser les failles et ce qui potentiellement a fait qu'il est passé à l'acte et pourquoi. Par exemple, Monsieur Pasternak nous avait dit qu'il n'avait pas de compagne, qu'il n'avait jamais réussi à avoir une petite copine ou une compagne et que pourtant il avait essayé. Sachant que Madame Weber avait été retrouvée dénudée avec des traces de violence sexuelle, c'était une indication pour nous quant au mobile de l'homicide et du passage à l'acte. Donc c'est des choses qu'on prend en compte. Et après, on va discuter au temps de pause avec les enquêteurs sur le meilleur moyen de se servir de ce qu'il nous a dit dans ses précédentes auditions pour avancer de façon la plus pertinente possible.
Code B47. Rapport d'enquête de personnalité de Yves Durand. La mère d'Alexandre Pasternak qualifie son fils de gentil, serviable et toujours prêt à rendre service. Il n'est pas très débrouillard et doute en permanence de ses faits et gestes. Je me rendais compte qu'il avait un mal-être, mais je me refusais à l'accepter.
Lors de sa première audition, il est très fermé, il est même très vindicatif dans le sens où il déclare qu'il n'a rien à voir, qu'effectivement il l'a vu de loin ce soir-là, mais qu'en aucun cas il a fait du mal à Madame Weber et qu'en aucun cas c'est lui. On n'a pas quelqu'un de stressé, d'inquiet à ce moment-là. D'ailleurs, les enquêteurs de l'ASR de Metz lui demandent régulièrement si ça va, si il se sent bien et tout, et il répond par l'affirmative à chaque fois. Donc il se sent à l'aise avec mes collègues, il est tellement à l'aise qu'effectivement, il clame son innocence lors de cette première audition. À la première audition, on n'a rien. Par contre, on est confiant pour la suite de par son comportement lors de l'enquête de voisinage. C'est-à-dire qu'il tremblait, il n'arrivait même pas à tenir son verre d'eau, il était très très stressé par la présence des gendarmes à son domicile. Il avait des blessures au coude et au genou parce que le jour des faits, en fait, hein, de la disparition de Madame Weber, il avait couru et surtout ce qu'il nous a dit, qu'il avait fait un malaise, qu'il s'était évanoui, qu'il s'était relevé, qu'il avait le short au niveau des genoux, tout ça nous mettait très en confiance pour la suite.
Code B47, rapport d'enquête de personnalité de Yves Durand. Alexandre Pasternak nous est apparu comme un homme à la personnalité quelque peu mystérieuse. Il nous a indiqué très clairement qu'il se sentait habité par moments, sans pouvoir définir ce phénomène qui semble le dépasser et auquel il lui est difficile de résister.
Lors de la deuxième audition, les enquêteurs le placent sur la scène de crime. Monsieur Pasternak commence à se sentir un petit peu coincé. Et à ce moment-là, il reconnaît avoir croisé la victime, lui avoir parlé. Les enquêteurs insistent sur le fait qu'il a parlé à Madame Weber, qu'il avait donc menti. Et là, Monsieur Pasternak fait quelque chose que dans ma carrière, j'avais jamais vu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sa mâchoire se crispe, ses yeux changent, sa voix change. Il dit que maintenant, ce n'est plus Alexandre qui va parler, mais c'est David. Qu'Alexandre est un abruti, un ringard, et que c'est David qui va prendre la parole maintenant et parler avec les enquêteurs.
Bon, maintenant, ce n'est pas Alex qui va parler. Alex, il va se mettre en pause. Je suis en train de le rassurer. C'est David qui vous parle. Ce ringard d'Alex est tellement débile qu'il peut pas se débrouiller tout seul. C'est infâme. J'ai même dû le forcer à regarder son grand-père égorger un poulet.
C'est difficile d'analyser s'il fait du cinéma ou bien s'il s'est inventé une autre personnalité pour nous reconnaître les faits parce que c'est trop dur pour Alexandre de reconnaître. On a eu très peur pour nos collègues parce que qui dit schizophrénie et crise dit risque de passage à l'acte extrêmement violent par rapport à mes collègues qui étaient dans la salle de garde à vue avec lui. Nous, dans la pièce à côté, avec le recul, il y a des choses qu'on peut voir que nos collègues ne voient pas forcément quand ils sont dans la salle avec le gardé à vue. Eux doivent taper en même temps, penser à leurs questions, et nous, on voit exactement ce qui se passe par rapport au comportement du gardé à vue. On a bien vu avec ma collègue les mâchoires qui se crispaient, le regard qui changeait, l'intonation de voix qui était complètement différente. Et à ce moment-là, on se dit qu'il faut absolument arrêter la garde à vue et le laisser redescendre en pression, se calmer, se détendre, se reposer et qu'on verrait le lendemain dans quel état il est, si c'est David qu'on a avec nous le lendemain matin en garde à vue ou si c'est Alexandre Pasternak. Le lendemain, quand nous reprenons ce qui du coup sera la troisième audition, Monsieur Pasternak est tout à fait normal, enclin à parler, ne fait pas référence à David, comme s'il ne s'était rien passé la veille. Donc, il n'est pas spécialement stressé, il n'est pas spécialement... Donc, on a retrouvé Monsieur Alexandre Pasternak à ce moment-là de l'audition. Alors, il continue à ce moment-là à nous dire qu'il l'a croisé, qu'il lui a parlé, mais qu'il ne lui a rien fait, jusqu'au moment où là... On avait reçu entre-temps les résultats ADN qui montraient que l'ADN sur les vêtements et l'ADN présent sur le corps de la victime était l'ADN de Monsieur Alexandre Pasternak. Donc les enquêteurs lui demandent déjà s'il sait ce qu'est l'ADN parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est l'ADN et sur quel support on le trouve. Donc Monsieur Pasternak, nous donnant l'impression d'être un petit peu limité intellectuellement, lui demande ce qu'est l'ADN. Il dit c'est ce qui se trouve sur les mains. Donc mes collègues enquêteurs lui expliquent ce qu'est l'ADN. Et à partir du moment où ils lui disent ça, que c'est unique à une seule personne, il reconnaît effectivement les faits d'homicide sur Madame Weber.
Les enquêteurs parlent d'un homme ordinaire, aucun antécédent judiciaire, aucun antécédent psychiatrique, mais une personnalité fragile. Ses explications restent floues quant aux raisons de son geste.
En l'état, il y a certainement une connotation sexuelle à l'agression.
Les analyses toxicologiques et psychiatriques devraient permettre d'en savoir plus. L'auteur présumé a été mis en examen pour homicide volontaire. Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
On de la traconte.
Côte B sur Europe 1.
C'est un puceau extrêmement frustré. C'est tout le problème de sa vie. Son objectif pour lui, c'était avoir une relation sexuelle. Donc c'était quelqu'un qui se présente, qui était très timide, très introverti, avec une fuite de regard, très détaché émotionnellement, qui était en faible résonance émotionnelle.
Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre.
Il était très froid, très méfiant. On sentait quand même une angoisse dans le contact. On sentait que le contact interhumain provoquait chez lui une angoisse et une tension. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours fui le contact social. Et ça, je l'ai assez rapidement ressenti avec lui. Hein. Il était clairement dans l'évitement. Donc, j'ai essayé de le mettre à l'aise en lui expliquant qui j'étais. Je me suis présenté en lui expliquant la mission qui m'était confiée par la justice. On avait quand même quelques questions particulières, notamment la dangerosité, hein, celle du risque de récidive, celle de la responsabilité pénale, qui se posait de façon aiguë, puisque M. Pasternak, devant les enquêteurs, parlait d'une éventuelle double personnalité, Alexandre versus David, qui essaie de prendre le contrôle de temps en temps. En fait, voilà, ça renvoie à certains films hollywoodiens, où on voit des personnes qui ont des meurtriers sadiques, qui ont des personnalités multiples. Donc, on pouvait se poser la question, éventuellement, d'une maladie mentale. Si c'est le cas, ça peut mettre en cause la question du discernement, l'abolition du discernement, et quelqu'un ne relèvera pas de la prison, mais plus de la psychiatrie. Pour M. Pasternak et Alexandre, est-ce qu'il souffre ou non d'une schizophrénie? La réponse est clairement non. Je n'ai retrouvé chez lui aucun élément en faveur d'une schizophrénie.
Code B26. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Nous n'avons retrouvé chez lui aucun élément délirant, pas d'hallucination intrapsychique, pas de franchise de persécution, pas de délire mégalomaniaque.
Donc s'il avait été schizophrène, on l'aurait déjà su depuis au moins une dizaine d'années chez lui. Après, on peut toujours faire des diagnostics tardifs. Ça arrive. En tout cas, la schizophrénie, ça démarre classiquement à l'adolescence. C'est une personne qui commence à être en retrait, qui développe des goûts très particuliers pour l'ésotérisme, chez qui on va avoir progressivement une rupture avec l'état antérieur, une rupture avec l'état antérieur. Donc on va clairement identifier un changement. En général, ça se voit. À 35 ans, ça n'aurait pas pu rester comme ça, silencieux toute sa vie, enfin jusqu'à 35 ans. J'ose espérer que sa mère se serait dit « il y a un problème, il faut que j'aille me consulter ». Après, ça reste quand même pas très crédible. C'est quelqu'un qui a une intelligence quand même pas très élevée. Et je pense qu'il a dû, voilà, il a dû se dire que ça passerait. Bon, malheureusement pour lui, personne n'a cru à son histoire. On est dans le cadre d'une tentative très maladroite quand même d'échapper aux poursuites judiciaires. Hein. Et tout ça, ça rentre plus dans un trouble de la personnalité que moi j'ai diagnostiqué, hein, une personnalité schizotypique qui se caractérise par une froideur des affects, un isolement social, des pensées pouvant être étranges. Oui, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait un contact étrange, isolé, et surtout qui n'arrive pas à entrer en relation de façon satisfaisante avec les tierces personnes.
Lorsqu'il est interpellé, Alexandre Pasternak, qui est né en 84, a donc 35 ans.
Maître Philippe Quatrebeux, avocat d'Alexandre Pasternak.
Il habite depuis de nombreuses années à Ariens, c'est un petit village non loin de Metz, en Moselle. C'est la maison familiale, c'était la maison de sa grand-mère, et il y vit avec sa mère, parce que ses parents sont divorcés. Le père habite quelques kilomètres plus loin, il habite pas très loin. Puis il y vivait avec la grand-mère qui est décédée quelques mois avant les faits. Ils vivent un petit peu en vase clos. Il est certain que le fait de vivre toujours en famille ne l'a pas incité à aller vers les autres. Il a très peu d'amis. Ses loisirs sont la lecture, le jardinage, la botanique. En tout cas, pratique aucun sport à l'extérieur, il ne pratique aucune activité dans un club ou dans un endroit où il pourrait rencontrer du monde et être en relation avec les autres. Et quand on a ce mode de vie qui est couplé avec une personnalité introvertie, avec quelqu'un qui est d'une timidité quasi maladive, c'est certain que les relations sociales avec les tiers sont très très compliquées pour lui.
Code B63, examen psychologique de Serge Sebel. Les parents d'Alexandre Pasternak se sont séparés en 2003 à la suite d'une tentative de suicide du père. Mais l'entente parentale aurait toujours été satisfaisante. Son frère cadet est décrit comme sociable, vivant en couple, mais leur relation était distante. On jouait aux voitures 10 minutes et chacun repartait de son côté. Quant aux raisons pour lesquelles Alexandre Pasternak restait vivre chez sa mère à l'âge de 35 ans, il reste évasif, avançant des considérations matérielles.
Il y a eu une perquisition chez lui lors de son interpellation.
Stéphanie Lemahou, commandante de gendarmerie.
Perquisition qui nous a permis de voir comment évoluait M. Pasternak, c'est-à-dire déjà qu'il a une toute petite chambre à côté de celle de sa mère. Il faut passer par la chambre de sa maman pour accéder à la sienne. La sienne, elle est tellement petite, en fait, c'était une buanderie à l'origine. Il vit également avec ses deux oncles, de 49 et 53 ans à l'époque des faits. On a l'impression, effectivement, que c'est une chambre d'adolescent. De grand enfant. Même pendant la perquisition, il est assez inquiet qu'on rentre dans son domaine, qu'on touche à ses affaires, à ses livres. Il lit beaucoup, donc il a beaucoup de livres. Et on voit qu'il n'est pas à l'aise par rapport au fait qu'on touche à ce petit monde en fait, qui tient dans une buanderie. On se rend compte que M. Pasternak est un vieux garçon qui vit avec sa maman, ses oncles qui ont un certain âge. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de loisirs, il n'a pas de petite amie. Et on trouve des albums, des classeurs, des pochettes dans les classeurs avec des sous-vêtements usagés de femmes et des photos de femmes. Et on se rend compte qu'en fait, il achetait sur petites annonces des culottes usagées, des sous-vêtements usagés de femmes.
Bah, c'est un puceau extrêmement frustré. C'est tout le problème de sa vie.
Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre.
Il a mis beaucoup, beaucoup d'efforts. En fait, c'était son objectif. Hein. C'était le Graal à atteindre. Pour certains, c'est des études, un métier. Pour lui, c'était avoir une relation sexuelle. Il a multiplié aussi les inscriptions sur des sites internet de rencontres et des sites libertins sans aucun succès. C'était voilà, son problème. Toute son énergie était vraiment consacrée à ça, à essayer d'avoir une relation. Alors, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il sortait d'abord dans les bals, où il était très content de m'expliquer qu'il avait réussi à avoir une relation de flirt avec une certaine Laetitia. Et quand je lui ai demandé s'il s'était embrassé, bah, il me regardait avec surprise et perplexe. Bah, il ne sait plus tellement s'il a embrassé cette jeune fille. En tous les cas, il a déployé des efforts considérables pour avoir des relations avec des filles. Il multipliait les sorties dans les bars, tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, en consommant de l'alcool pour se désinhiber. Bah, il a fait chou blanc, il a eu recours au service d'un coach pendant 2 ans, où il faisait des exercices devant le miroir pour essayer de séduire. Alors, lorsque je lui ai demandé s'il était content de ce coaching, il m'a dit oui, j'ai même réussi à avoir un 06. Seulement par la suite, quand on reprend les choses avec lui, cette jeune fille qui lui a donné son numéro n'était probablement pas le bon parce qu'elle ne répondait pas au téléphone. Donc voilà, il a passé beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, sans succès. Le drame, c'est que la seule relation qu'il a eue, c'est avec une femme qui l'a tuée finalement. Donc c'est au final, et à quel âge? À 35 ans.
Code B43. Rapport d'enquête de personnalité de Yves Durand. Depuis 2019 jusqu'à son incarcération, Alexandre Pasternak indique être agent communal d'entretien d'espace vert. Un collègue de travail le décrit ainsi. Il ne pouvait pas travailler seul, tête en l'air, il ne faisait pas attention au matériel. Calme, il n'aimait pas le reproche. Un adjoint au maire ajoute « Il était maladroit, limité et incapable de prendre une décision.
Monsieur Pasternak Alexandre, c'est quelqu'un qui échange facilement, qui parle facilement, qui répond facilement aux questions, sauf lorsque j'ai tenté d'explorer la sphère sexuelle. Lorsque j'ai quelqu'un en expertise, c'est surtout s'il est mis en examen pour des faits de nature sexuelle, j'explore toujours sa sexualité. À quel âge il a commencé la masturbation, comment il prête, comment il fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il regarde comme vidéo, comme photo, qu'est-ce qu'il excite. C'est extrêmement important pour faire une évaluation exhaustive dans une visée sexologique. Là, le problème, c'est qu'il a catégoriquement refusé que j'explore cette sphère. Alors, non seulement ça, mais aussi lorsque j'ai voulu savoir ce qui s'était passé exactement avec la victime, comment il en est venu à la tuer, pourquoi, est-ce qu'il y a une composante sexuelle qu'on pouvait évidemment suspecter lorsque je l'ai rencontré. La victime était quand même retrouvée nue. Lui-même reconnaît qu'il avait le short baissé et qu'après l'avoir étranglé, il s'était couché sur le corps en lui caressant les seins. Donc, il y avait une dimension sexuelle qui me semblait évidente. Donc, lorsque j'ai essayé d'explorer ses motivations, les implications sexuelles, il m'a sorti la théorie du trou blanc. Hein, le trou blanc, en disant « j'ai un trou blanc, je ne m'en souviens plus ». Ce qui n'était pas satisfaisant et pas cohérent, parce que lorsqu'il était interrogé par les enquêteurs, il décrivait en détail la scène sans mentionner d'oubli. Hein, il n'a jamais précisé qu'il avait un oubli, une amnésie de la scène. Idem lorsqu'il est interrogé devant la juge d'instruction, il explique en détail ce qui s'est passé, qu'il l'a étranglé, qu'il l'a déshabillé, que lui-même dans la bagarre il a déboutonné et baissé son short. Bon. Donc il n'y avait aucune amnésie qui ressortait. Là, devant moi, il joue la carte de l'amnésie. C'est qu'en fait, il est d'accord pour répondre de toutes les questions sauf celle de sa sexualité. Donc là, ça interroge quand même. Ça interroge parce que moi, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a des déviances sexuelles lorsqu'il regarde des films, des vidéos? Est-ce qu'il regarde des rapports sexuels classiques ou des simulations de viol? Ou est-ce qu'il regarde des rapports sexuels avec des jeunes enfants? Qu'est-ce qui l'intéresse finalement? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Ce sont des rapports sexuels violents ou autre chose, hein. C'est fondamental de rechercher d'éventuelles déviances sexuelles. Le fait que lui refuse d'en parler, ça dit quelque chose aussi. Voilà, il y a quand même la question d'une déviance sexuelle sous-jacente.
On voulait qu'il nous reconnaisse ces violences sexuelles et le mobile qui était vraisemblablement qu'il l'avait tué, Madame Weber, pour la violer. Ça, il n'a jamais voulu le reconnaître. Par contre, c'est la médecine légale qui l'a apporté.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelat.
J'ai jamais eu la moindre difficulté à dialoguer avec Monsieur Pasternak.
Maître Philippe Quatrebeux, avocat d'Alexandre Pasternak.
Lorsque l'on va aborder la dimension sexuelle de ses actes, notamment le viol, ça va être compliqué pour lui d'en parler. Plus parce que il a du mal à dire les choses, parce que on a l'impression que le sexe est quelque chose de très tabou chez lui et que ça lui coûte d'en parler. Mais il en parle parce que si je lui pose la question, il va répondre à la question. Et lorsque la juge d'instruction va l'interroger là-dessus, ce sera exactement pareil, c'est-à-dire que il va pas éluder la question, il va y répondre. On voit que il est dans l'émotion lorsqu'il en parle. On voit que il sait que ce qu'il a commis est un acte déviant, et il a peur du jugement de l'autre sur les déviances de son acte. La maison d'arrêt de Nancy a cette particularité, c'est qu'il y a une aile réservé, entre guillemets, aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Et a été mis en place au sein de cette maison d'arrêt un suivi aux auteurs d'infractions sexuelles. Et M. Pasternak a été demandeur très très rapidement d'une prise en charge médicale, d'une prise en charge psychologique Et c'est dans le cadre de son suivi, va lui être suggéré de poser sur papier, d'écrire ce qu'il a dû énormément de mal à dire à l'oral. Et donc effectivement, il va coucher sur le papier un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'il va parler de ses fantasmes qui sont restés à l'état de fantasmes. Et il va parler de cette journée où il a croisé Madame Weber, où il a violé et donné la mort à celle-ci. Et il va faire le récit de cette scène et lors d'une fouille de sa cellule, va être découverte sa prose, immédiatement transmise à Madame la juge d'instruction qui l'interrogera peu de temps après sur cette découverte.
La lettre qui signe les aveux d'Alexandre Pasternak est intitulée « Le mardi du viol du cadavre et sa mise à mort ». Alexandre Pasternak y évoque un désir refoulé depuis des années pour sa voisine Sigrid Weber. Il écrit « J'étais ado à l'époque. Je l'observais sur sa chaise longue de bronzage, dans son maillot de bain, s'épiler ses belles jambes. Puis dans le paragraphe suivant, il relate la journée du crime. C'était un mardi chaud du mois de juillet. Je me demandais comment coucher. J'ai réfléchi et je me suis dit, au niveau de la ferme des Gandards, il y a un angle mort. C'était l'endroit parfait. »
Lui-même ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est passé à l'acte. Il a eu très peur en voyant la capacité de violence qu'il pouvait avoir en lui. On a l'impression que ce qui s'est passé, c'est finalement une accumulation de frustration, une accumulation de rejet, parce qu'il a essayé tout au long de sa vie d'avoir des relations avec des femmes, et c'est certainement cette accumulation-là qui a fait que ce jour-là, M. Pasternak a commis des faits d'une grande violence.
Moi, je ne pense pas qu'il soit passé à l'acte de façon opportuniste.
Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre.
Lorsque je l'ai interrogé sur la vision qu'il avait de la victime, il expliquait que cette femme, il l'a trouvée jolie. C'était une blonde sportive, il l'a trouvée jolie. Ils en parlaient chez lui, avec sa mère, de cette femme, où cette femme avait la réputation de vouloir faire plus jeune que son âge, d'avoir des relations avec des hommes mariés. Donc, elle avait la réputation d'être une femme active sexuellement. Je pense qu'il a dû dire, tiens, si elle multiplie les relations, peut-être que j'ai ma chance avec elle, peut-être que ça va marcher. En tout cas, il y pensait régulièrement. Donc, je ne pense pas qu'il l'ait choisi par hasard. Je ne pense pas qu'il l'ait croisé tout à fait par hasard le jour où il l'a tuée. Je pense qu'il a essayé de rentrer en contact avec elle, qu'elle a dû l'envoyer balader, comme ça s'est toujours fait par le passé avec toutes les filles avec qui il a essayé. Et je pense que là, il n'a pas réussi à se contrôler. Ça lui a fait péter un câble. La rage de tous les précédents râteaux qu'elle a eu a dû ressortir. Je pense que c'était le râteau de trop. Et c'est ça qui a dû le mettre dans un état de rage considérable. Il a dû repenser à tous ces rabaissements qu'il a vécu, qu'il a essuyé. Et il explique qu'il a fait ça dans le cadre d'une pulsion. Ouais, c'était quelque chose de pulsionnel et qu'il fomentait ça en fait depuis un moment. Donc on peut supposer que c'est depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et d'ailleurs, début des années 2000, il avait croisé une promeneuse en forêt et il avait déjà eu cette pulsion, mais il avait réussi à la réfréner. Mais il explique qu'il avait eu très très envie d'attraper cette femme et de l'étrangler jusqu'à la mort. Mais qu'il était parvenu à contrôler son geste. Ce qui s'est passé entre 2000 et 2019, c'est qu'entre-temps, sa grand-mère est morte. Il explique qu'il avait une relation très fusionnelle avec elle et que suite au décès de sa grand-mère, là, il a commencé à perdre le contrôle et les pulsions devenaient de plus en plus importantes.
Le passage à l'acte, pour moi, est vraisemblablement dû à un mélange de plusieurs facteurs. Un isolement social extrême. Quelqu'un qui, depuis sa plus tendre enfance, n'a pas d'amis. Il faut savoir qu'il nous a dit qu'il était aussi... ses camarades se moquaient régulièrement de lui parce qu'il était extrêmement timide et gros.
Stéphanie Lemahou, commandante de gendarmerie.
Et du coup, il a vécu toute une enfance sans amis. Il n'était pas très proche de son frère. Ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours vécu seul. Il a essayé de toutes ses forces de rencontrer une femme en allant à des bals, sur des sites de rencontres. Ça n'a jamais marché. Et il nous a dit qu'il n'avait jamais eu personne à qui se confier. Et je pense que c'est cet isolement social extrême qui a engendré des frustrations, frustrations sociales, des frustrations sexuelles qui ont fait qu'il est passé à l'acte.
Faites entrer l'accusé. Monsieur Pasternak, à quel moment avez-vous décidé de suivre Sigrid Weber, votre victime ? Au moment où je l'ai aperçue de loin, j'ai fait demi-tour et je me suis retrouvé en face d'elle. Quelles étaient vos intentions ? Elle l'a violée.
Monsieur Pasternak, de par les faits pour lesquels il était condamné, on peut le qualifier de meurtrier sexuel.
Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre.
Et globalement, il y a deux profils de meurtriers sexuels décrits dans la littérature. Et c'est très important de faire le distinguo. Alors, il y a le profil de meurtrier sexuel colérique. C'est quelqu'un qui n'a pas de profil de personnalité particulier, ou alors il peut être psychopathe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est bien inséré. Alors, qui peut être inséré socialement ou pas, d'ailleurs, qui est connu pour ses antécédents de violence. C'est des gens qui sont assez souples aux lèvres, c'est violent. Mais en tout cas, qui n'ont pas de difficulté à entrer en relation avec les gens. C'est souvent inopiné, c'est pas du tout prémédité, mais chez qui il n'y a pas de déviance sexuelle. Il fait ça plus pour humilier la personne qu'il frappe, plus que par perversion sexuelle. Contrairement au tueur sexuel sadique, où là, généralement, le profil est quand même sélectionné en amont. Il faut que ça corresponde à des critères sexuels, critères esthétiques, que la femme plaise à l'auteur. Et pourquoi c'est important de distinguer les deux ? Parce que le pronostic, le risque de récidive ne sera pas du tout le même dans l'un comme dans l'autre cas. Chez le tueur sexuel sadique, le risque de récidive est beaucoup plus élevé, notamment sur une même modalité de meurtre ou de viol. Ah bah Alexandre Pasternak, lui, clairement, présente un profil de tueur sexuel sadique. Hein. C'est aussi ce genre de profil qu'on retrouve chez certains tueurs en série. Donc, s'il y a une récidive chez lui... ce ne sera pas un vol ou ce ne sera pas des violences sur une tierce personne. On risque à nouveau d'avoir des violences sexuelles, voire un meurtre sexuel à nouveau.
Code B29. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. La réinsertion sociale de M. Pasternak est problématique. Les motivations de l'acte homicide semblent sous-tendues par des fantasmes sadico-pervers. Le peu d'évolution de la personnalité au fil du temps majeure un peu plus sa dangerosité sociale. En moyenne, le taux de récidive d'un homicide est un phénomène rare, évalué à 4,5%. Pour les homicides sexuels commis à l'occasion d'un viol ou par un tueur sériel, la réitération est plus élevée, plus de 15%.
On retrouve certains points communs entre Jeffrey Dahmer, le célèbre tueur en série qui a fait l'objet d'une série télévisée actuelle, et M. Pasternak Alexandre, notamment un profil de personnalité particulier où les interactions sociales sont très largement compromises. Hein, ce sont des personnes isolées, qui ont été identifiées très tôt comme bizarres par les personnes qui les entourent, hein. Bizarres, isolées, avec des centres d'intérêt très particuliers, et qui ont des problèmes, clairement, d'entrer en relation avec des pairs et d'initier des relations intimes. Dans les deux cas, on retrouve une froideur affective aussi, et puis quand même des préoccupations sexuelles particulières. Chez Jeffrey Dahmer, on a quand même un sadisme sexuel évident qui ressort, notamment lorsqu'on se documente sur les expertises dont il y a pu bénéficier aux États-Unis, on trouve quand même des points communs avec les déviances sexuelles, l'inhibition, l'introversion anxieuse, les troubles du contact.
Monsieur Pasternak, vous n'avez jamais essayé d'aborder Madame Weber de manière classique ? J'ai essayé à l'automne dernier. Mais j'ai renoncé. J'étais trop timide.
Lorsque l'on prend connaissance de l'expertise psychiatrique, on a l'impression qu'effectivement, on a affaire à une véritable bombe à retardement, un tueur ou un violeur en série potentiel. C'est de toute façon contrebalancé par tous les éléments qu'on a dans le dossier, à savoir que d'une part, M. Pasternak n'a jamais fait parler de lui devant la justice. Aucun délit, aucun crime, bien entendu, hein, ne peuvent lui être reprochés avant ce jour-là. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur dans son enfance, dans son adolescence, qui peuvent laisser penser que l'on est en présence de quelqu'un qui est de nature violente ou de nature perverse. Monsieur Pasternak est loin du potentiel ou futur tueur en série que l'expert psychiatre peut dépeindre, tout simplement parce que à part les dires de l'expert, il y a rien qui nous permet de dire que monsieur Pasternak va un jour récidiver, ou que monsieur Pasternak lorsqu'il sortira un jour de détention va refaire parler de lui.
Finalement, il est inquiétant, monsieur Pasternak, parce qu'il fait plus, effectivement, vieux garçon du village. Et pour autant, il peut se révéler vraiment ultra violent, avec des pulsions morbides.
Stéphanie Lemahou, commandante de gendarmerie.
Et ce qui est dérangeant avec monsieur Pasternak, c'est effectivement son allure bonhomme, son allure de vieux garçon simplet qui sourit niaisement. Et ce qu'on voit de lui et ce qu'il est capable de montrer quand il parle de ses pulsions, quand il parle de David, et qui sont effrayants. Et ce qui est dérangeant avec monsieur Pasternak par rapport à ça, à ses fantasmatiques et à ses pulsions, c'est si c'est pas traité en prison, et si on peut le traiter, c'est ça la question aussi qui se pose. C'est un profil qu'on n'a pas envie de retrouver après, à l'issue de sa période de sûreté dans les rues dans 22 ans.
Quand il a conclu l'entretien avec moi, il m'a clairement dit « ce n'est pas la première fois que je serai au tribunal ». Alors, j'ai noté la phrase dans le rapport. Il me dit « en fin d'entretien, ce n'est pas le premier jugement que je vais avoir ». Voilà, c'est là-dessus que l'entretien s'est conclu.
Conformément aux réquisitions de l'avocat général, Alexandre Pasternak a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 20 ans. Il a aussi une obligation de suivre des soins pendant une période de 10 ans. C'était On-delà raconte Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin.
Retrouvez On de la Traconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.